podcast de Radio Vatican.
Le cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et le LN est-il en danger? Oui, a alerté la guérilla guévariste ce mardi 7 novembre 2017, un peu plus d'un mois après l'entrée en vigueur de la trêve. Les guérilleros critiquent les actions offensives de l'armée, l'insuffisante protection des leaders communautaires ou encore la répression des mouvements sociaux. Notant cependant des avancées, le chef négociateur de l'ELN a promis de respecter le cessez-le-feu jusqu'à son échéance le 9 janvier 2018, sans promettre de le reconduire ensuite. Alors, réel risque de rupture ou coup de bluff pour obtenir des concessions? L'analyse de Frédéric Massé, spécialiste des conflits armés en Colombie.
Je crois que ni l'ELN ni le gouvernement ont intérêt à rompre le cessez-le-feu actuellement. L'ELN bénéficie du cessez-le-feu dans la mesure où cela lui permet un petit peu de reprendre son souffle, de ne plus être sous pression militaire du gouvernement. Alors certains accusent justement l'ELN d'avoir négocié un cessez-le-feu pour pouvoir faire baisser la pression et continuer de se réorganiser. Dans certaines régions, il y a des accusations comme quoi l'ELN continuerait à recruter des mineurs, tout en ne violant pas ouvertement le cessez-le-feu, même s'il y a certains incidents. Donc ça, l'ELN a tout intérêt à ce que le cessez-le-feu continue pendant un certain temps. Et le gouvernement a également intérêt à ce que le cessez-le-feu continue parce que ça lui permet de montrer une certaine Colombie en paix, même s'il y a un certain nombre de problèmes avec les FARC, même s'il y a des dissidences qui sont en hausse. Mais disons que l'objectif du président Santos était d'obtenir une paix complète, c'est-à-dire non seulement un accord de paix avec les FARC, mais aussi un accord de paix avec l'ELN. On sait qu'il n'y aura pas d'accord de paix avec l'ELN à court terme, c'est irréaliste, mais l'objectif est de pouvoir laisser à son successeur un pays en paix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ou peu de combats violents.
Paradoxalement, vous estimez que la bonne santé du cessez-le-feu pourrait porter préjudice au dialogue de paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Le risque, c'est que finalement, si le cessez-le-feu est favorable aux deux parties, l'objectif du cessez-le-feu est de créer un climat de confiance pour faire avancer les négociations. Le risque est que le cessez-le-feu, finalement, ne fasse que congeler ces négociations. Si chacun entre dans une certaine zone de confort, cela peut, comme ça s'est vu dans d'autres conflits ou dans d'autres régions, dans d'autres pays, cela peut finalement avoir un effet pervers qui serait de congeler les négociations et de trouver toujours un petit peu des subterfuges pour ne pas négocier le fond du problème, qui sont les revendications que l'ELN a manifestées lors de la signature de son agenda de paix.
Le ELN dénonce notamment l'attitude agressive de l'armée malgré le cessez-le-feu. Le gouvernement nie. Qu'en est-il exactement?
Le cessez-le-feu n'empêche pas le gouvernement de continuer à poursuivre un certain nombre d'acteurs liés à des activités criminelles. Donc, dans des régions où, contrôlées par le ELN, il y en a des narcotrafiquants, qu'ils soient de l'ELN, qu'ils soient d'autres organisations, ce qui pose un certain nombre de problèmes et c'est un peu ambigu parce que quand le gouvernement continue de mener la lutte contre ces acteurs armés illégaux ou ces acteurs criminels, d'une certaine façon, cela a des conséquences directes ou indirectes sur le financement de l'ELN, sur les routes d'approvisionnement ou les routes d'exportation de la drogue, même si cela n'a pas directement à voir avec le cessez-le-feu. Donc l'ELN, effectivement, pour éviter que le gouvernement affaiblisse les sources d'approvisionnement, l'ELN provoque un certain nombre de déplacements de population et accuse aussi, d'une certaine façon, le gouvernement d'être à l'origine de ces mouvements de population. Donc on est vraiment dans des situations où c'est pas noir, c'est pas blanc. Chacun essaye de respecter plus ou moins ce qui a été accordé, mais chacun essaie également d'interpréter en sa faveur ce qui a été conclu ou accordé.
L'ELN n'accuse pas seulement le gouvernement de viser ses troupes. Elle considère que les autorités n'en font pas assez pour protéger ce qu'ils appellent les leaders sociaux. Quelle est la situation?
Effectivement, les assassinats de leaders sociaux, défenseurs des droits de l'homme, depuis le début de l'année, ont augmenté. C'est une vraie préoccupation. Maintenant, est-ce que la faute en revient totalement au gouvernement? Pas forcément. Mais c'est vrai que ça donne effectivement un argument à l'ELN pour dire, écoutez, tant que le gouvernement n'arrive pas à protéger complètement ses leaders sociaux, dont certains sont proches de l'ELN, mais pas tous, et pas la majorité, effectivement, l'ELN ensuite répond, vous n'êtes pas capable de protéger, nous on a aussi des problèmes de commandement ou de communication, même s'ils ne le disent pas aussi ouvertement. Et c'est vrai que l'ELN, par cet argument, essaie de renvoyer la balle un petit peu dans le camp du gouvernement. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai, c'est une situation qui effectivement est complexe, qui est inquiétante, mais ce ne sont pas simplement des personnes proches de l'ELN, c'est un problème beaucoup plus vaste.
Certains de ces leaders sociaux s'élèvent contre notamment le plan de substitution des cultures de la coca, par exemple, une culture qui alimente les trafics, y compris ceux de l'ELN. Pourquoi est-ce que cela pose problème ?
Alors, ce plan de substitution ne sont pas vraiment nouveaux et il y a eu un certain nombre de couacs parce qu'il y a un manque de coordination entre les différentes institutions de l'État. On a eu parfois donc un certain nombre de situations un petit peu incommodes, inconfortables, où les paysans avaient signé un accord avec le gouvernement en s'engageant, disons, de façon volontaire à déraciner ces cultures, et le lendemain, l'armée venait déraciner de façon forcée ces cultures. Donc ça a provoqué des tensions, ça risque de continuer à en provoquer, et le problème de fond, il y a plusieurs problèmes de fond. Premièrement, la viabilité de ce genre de mesures. On sait que si on se contente d'arracher les cultures sans promouvoir d'autres façons de survivre, c'est à très court terme, ça ne change rien. Et je crois qu'il y a des chiffres qui montrent que un an après, 50% des cultures qui avaient été, disons, éradiquées sont replantées par les mêmes paysans.
Pour quelles raisons ? Il existe pourtant des alternatives, non ?
Les cultures alternatives, alors il y en a plusieurs, on parle beaucoup du cacao ces dernières années, mais outre les problèmes, on va dire, purement agricoles, il y a aussi des problèmes d'infrastructure, puisque pour que ces cultures soient viables, il faut non seulement que les terrains soient viables, mais il faut également qu'il y ait toutes les infrastructures nécessaires pour acheminer le produit des récoltes vers les centres urbains et ensuite pouvoir exporter éventuellement ces cultures. Et c'est là où bât blesse, parce que la Colombie a toujours un déficit assez important au niveau de l'infrastructure, essentiellement des routes qu'on appelle tertiaires ici, c'est-à-dire les petites routes qui vont dans les coins les plus isolés. Donc tant qu'on n'aura pas réellement amélioré ce point, on peut promouvoir toutes les cultures qu'on veut, mais si c'est pour que les cultures pourrissent finalement sur place ou ne trouvent pas de débouchés, eh bien les paysans retourneront vers finalement la culture de la coca, parce qu'en plus, la culture de la coca, outre le nombre de récoltes importants par an, maintenant je crois qu'il y a des récoltes pratiquement tous les 2-3 mois, les narcotrafiquants viennent acheter directement la coca sur place aux paysans, paient le produit des récoltes comptant, ce qui ne se fait pas avec les autres cultures. Donc en fait, il y a toute une série d'avantages, et même si la plupart des paysans manifestent leur intention de ne plus dépendre de cultures illicites pour survivre, dans les faits, c'est loin d'être évident.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.